I know how it sounds.
La sex exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sex exploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la sex exploratrice accompagnée de Max Lacasse et Mel Trudel.
Bonsoir.
Bonsoir. Messieurs, dames, dites-nous donc tout de suite d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, le 418-670-9098. On veut savoir, vous le savez, on aime ça savoir d'où est-ce que vous nous écoutez. On va tout de suite, par exemple, aller rejoindre notre invité, hein, parce qu'on est en temps limité et je sais qu'on manque toujours de temps lorsqu'elle est avec nous. Et c'est notre cher coach relationnel Caroline Mathieu de l'Odyssée du Bonheur. Bonsoir, Caro.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux et à tous les auditeurs.
Oui, Caro, on va parler ce soir d'amitié homme-femme.
Oui, j'ai hâte qu'on parle de ça.
Oui, c'est ça. C'est un débat, en fait. Ça fait longtemps qu'on va en parler de ça. Et on voulait faire un changement du sujet de la Saint-Valentin. Hein. Je pense qu'on va en parler en masse demain avec nos célibataires en onde. Donc, l'amitié homme-femme, est-ce que c'est possible ou non? Moi, je pense que oui. Mais quand j'analyse toutes les relations amitié homme-femme que j'ai autour de moi et que je vis moi, je commence à me questionner, bien que j'ai personnellement de réelles amitiés avec le sexe opposé. Est-ce que vous en avez, Caro, Max? Je suis curieuse de vous entendre là-dessus.
Ben, moi, je suis curieuse de savoir ce que Max va dire. Je vais parler pas, dans un premier temps, en rôle de coach, mais aussi en rôle de femme et dans ma vie aussi. Moi, personnellement, c'est fou comment c'est un sujet, je sais pas vous, justement. Je serais curieuse de Max parce que lui, en plus, c'est un homme par rapport à nous deux qui sommes des femmes. On vit pas forcément les mêmes choses. Puis, je sais pas toi, Mel, mais moi, depuis que je suis petite, on m'a toujours dit, et c'était vraiment, ça m'énervait qu'on me dise toujours, les hommes et les femmes, ça peut pas être amis, il se passera toujours quelque chose, c'est pas possible, blablabla. Ça me mettait hors de moi parce que moi, j'avais plein d'amis hommes et du coup, c'était quelque chose qui me perturbait. En tant que femme, aujourd'hui, avec plus de recul, je me suis posé des questions et aujourd'hui, j'ai certaines réponses dont on va parler, mais je serais quand même curieuse de savoir, vous deux, justement, comment vous avez vécu ça dans votre vie aussi?
Ben moi, écoute, ça a toujours été un désastre. J'ai toujours voulu avoir des amis de filles. J'aime la compagnie des femmes en général. Mais ouais. À chaque fois que j'avais une bonne amie, il a toujours fallu avant se défaire de ces tensions et de ces pulsions sexuelles-là. Donc, toutes les amies que j'ai eues, mes bonnes amies dans ma vie, on a couché ensemble à un moment ou un autre de notre relation. Puis on dirait qu'une fois que ça s'est arrivé, on a pu continuer notre amitié parce qu'on s'est rendu compte que, bon, peut-être qu'on n'avait pas de potentiel de couple, que l'autre bord, ben ça marchait juste pas. On voulait d'autres choses. On voulait juste être amis, finalement. Mais là, depuis tout récemment, je commence à croire que oui, c'est possible. Tu vois, la relation que j'ai avec Mel, c'est une relation complètement amicale. On est presque sur le même pied d'égalité, frère et sœur. C'est comme ça que je pourrais la qualifier.
C'est comme ça que je le sens
aussi. Mais c'est très nouveau dans ma vie. Peut-être que c'est la maturité, peut-être que c'est les expériences, peut-être aussi que c'est le fait d'avoir vécu tout ça avec ces femmes-là qui m'amènent aujourd'hui à avoir la présence émotive pour être capable de savoir ce que je veux, de ce que je veux pas dans une relation amicale avec une femme. Mais ça a toujours été très, très ardu parce que j'ai l'impression que d'une part comme de l'autre, il y a toujours des envies, c'est naturel, c'est biologique. Et lorsque ces envies-là persistent, il faut les annihiler. Puis d'après ce que j'ai constaté par mon expérience, c'est qu'on l'annihilait par le fait de consommer l'amour, tout simplement.
Je comprends. Et est-ce que justement dans votre éducation, on va dire ça comme ça, que ça a été vos parents ou des proches, en fait, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez entendu certaines choses en particulier du style « c'est possible, c'est pas possible » ou juste rien du tout? Est-ce que vous avez été livré à vous-même par rapport à ça ou il y a eu des influences?
Moi, je l'ai entendu, mais ça m'a pas été inculqué. Donc, ma famille, puis toute jeune, là, j'avais déjà plein... En fait, j'avais toujours plus d'amis de gars que d'amis de filles. Je jouais au bloc Lego, les G.I. Joe, ça m'attirait beaucoup plus que les Barbie. Donc, je participais à des concours de Lego avec mon ami Patrick. J'allais faire du vélo avec Jean-Philippe. J'avais beaucoup plus d'amis de gars que d'amis de filles, donc ça a toujours été comme ça dans ma vie. Mais je pense que je suis très claire aussi. En fait, je ne laisse pas place à la séduction ni à la crouse non plus avec mes amitiés, avec le sexe opposé. Donc, c'est peut-être ça qui fait que ça peut se produire. J'ai des amis de gars aujourd'hui que j'ai depuis la maternelle, là, qui sont toujours restés des amis. Pour moi, même chose avec Max, c'est vraiment une relation frère-sœur. Là. Ça, vraiment, là, on se confie des choses très intimes et tout ça. Puis il n'y a pas cette tension ou, tu sais, en tout cas, bref.
Non, vraiment
pas. On est vraiment frère et sœur.
Mais oui.
Vrai. C'est vraiment drôle comme relation. J'avoue que j'en ai pas beaucoup non plus des relations comme ça. Mais moi, c'est pas quelque chose personnellement qu'on m'a partagé comme valeur. Mais toi, Max, est-ce que tu te faisais dire ça?
Ah, moi, je me suis souvent fait dire ça, puis surtout par les femmes avec qui j'étais amie.
Ah oui?
Ouais, fait que c'était un discours qui était partagé, là, autant dans mon camp que chez leur. Probablement que ça a contribué aussi au fait qu'on
d'avoir
finisse
besoin.
Par consommer ce désir-là, là, cette espèce d'amour, entre guillemets. Là. Mais ouais, moi, c'est quelque chose qu'on m'a, ben, pas inculqué, mais que j'ai entendu beaucoup quand j'étais jeune. Puis même mes parents là, me le disaient, là, hey, ça se peut pas, c'est sûr qu'ils vont coucher ensemble à un moment donné, quand j'avais des amis de filles. Fait que ça a toujours été convenu un peu de cette façon-là. Puis même, je me demande si ça a pas joué dans mon inconscient en grandissant.
Mais là, c'est
peut-être
ça.
Que oui.
Mais tellement, et ça va être drôle aux auditeurs là, de leur dire, d'essayer d'analyser ce que chacun vous venez de dire, parce qu'en fait, on a tellement les réponses là-dedans, c'est super intéressant. Pour moi, là, c'est hyper important de comprendre que c'est complètement possible l'amitié homme-femme, et que bien évidemment, il va falloir déconstruire certains codes culturels qu'on a eus.
Oui.
Et je pense que vous avez compris que j'aime bien casser des codes culturels, parce que je pense que sincèrement, dans notre culture relationnelle, occidentale, c'est clair qu'on n'a pas été aidé pour gérer nos relations et être épanoui dans nos relations, on va dire ça comme ça.
Effectivement.
Y compris dans les relations en fait d'amitié, quoi, homme-femme. Je sais pas ce que ça vous dit pour le moment, ce que je suis en train de dire là.
Mais c'est tellement ça. En fait, la société a voulu carrément contrôler tous nos comportements et aller à l'encontre de la biologie, ou de que ce soit en amour ou en amitié, là, c'est ça, là, carrément.
Mais tellement. Et puis, je pense sincèrement, je fais un petit brin de philosophie l'espace de quelques secondes, une petite minute, mais notre société jusque-là et notre culture, elle ne nous a pas inculqué une culture à travers l'épanouissement personnel et le bonheur. C'était un épanouissement socio-culturel, il fallait s'établir dans la société. Les relations faisaient partie des normes pour s'établir, mais pas forcément pour être épanoui à titre d'individu. Et ça, ça a causé beaucoup, beaucoup, pour moi, de problématiques au sein des relations de couple, comme des relations amicales entre femmes et hommes-femmes même. Et entre hommes aussi, je veux dire, que peu importe les sexes. Et c'est intéressant parce que je me suis amusée à aller chercher, voir s'il y avait eu des études dans le passé, savoir est-ce que les hommes et les femmes étaient recensés comme amis dans le passé. Et c'est drôle parce qu'il y a extrêmement peu d'études qui ont été faites en avant des années 1980, parce qu'apparemment, c'était justement un phénomène culturel qui n'était absolument pas accepté, on va dire ça comme ça, et populaire. Mmh. Donc j'ai retrouvé la première trace en 1954 qu'il y aurait eu une étude de fait, mais elle est assez floue, j'ai pas eu bien les détails de l'étude, mais elle recense apparemment quasiment 0% des hommes qui se disent avoir une amitié avec une femme. Donc c'est dingue
fou.
Quand même, je trouve.
Il y a toujours une idée en arrière, mais ça nous vient aussi du fond judéo-chrétien puis du catholicisme là, qui prônait ben, le fait que les familles prolifèrent. Donc un homme et une femme, il faut que ça fonde une famille, il faut que ce soit en couple. Pourquoi une amitié? Ça résonne à quoi? Ça rime à quoi?
C'est comme si, et c'est ce que je retirais là, des lectures que je lisais qui étaient faites d'études en psychologie et qui étaient anciennes, que c'est pas très joli à lire, là, mais que la femme était vraiment vue comme un... Attention à ce que je dis là, je relate des faits, mais comme un objet sexuel. En fait, le besoin de s'établir dans la société plutôt qu'un individu à part entière avec un besoin d'épanouissement mutuel, etc., etc. Et c'est fou parce que rien qu'entre 1954 et une autre étude qui a été faite en 93, on voit que la société a changé d'un coup. Et c'est aussi là qu'on voit que si la société bouge très vite et beaucoup, notre culture, elle a du mal à suivre. Et nous, à titre individuel, on a du mal à se repérer entre « c'est possible, mais comment s'y prendre ?» Parce qu'en 93, il y a une autre étude qui a été faite où 40% des hommes, apparemment, tout âge confondu, disaient avoir au moins une femme dans leurs amis. Alors qu'aujourd'hui, il y a une autre étude qui a été faite en 2016, et c'est drôle parce que là, on voit vraiment l'écart des générations, où ils disent qu'en gros, des hommes de 18 à 24 ans ont 70% d'hommes qui ont une femme dans leurs amis ou une fille dans leurs amis, alors qu'entre 55 et 64 ans, on était à 40% des hommes qui avaient une femme dans leurs amis ou plusieurs. Donc c'est drôle parce que c'est vraiment un phénomène, on voit vraiment social, je trouve, qui est... Qui est perturbant pour, je pense, pour la société et pour les gens qui ne savent pas trop comment s'y prendre, en fait.
Oui, et puis il y a des gens qui croient que, bon, une femme et un homme, amis, si vraiment il n'y a aucune tension sexuelle et tout, c'est que l'homme est homosexuel, ce qui est complètement ridicule.
C'est vrai qu'on entend ça souvent. Là.
Mais oui, c'est ridicule, mais... ça n'a pas de bon sens.
Clairement, alors qu'en plus, l'amitié homme-femme, il y a des choses super intéressantes à en tirer parce que ce qu'il en ressort beaucoup dans la psychologie, c'est que, par exemple, justement, les hommes entre eux... Alors, je fais une généralité parce que, bien évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais Je pense que vous, comme moi, vous l'avez peut-être remarqué, sinon ce serait intéressant d'en parler, mais les hommes entre eux se confient moins que les femmes entre elles sur des choses très privées et très intimes. Et apparemment, cette mixité que peut apporter l'amitié homme-femme peut permettre réellement d'aider en fait tout un chacun à s'exprimer davantage sur ses ressentis, sur son intimité et ces choses-là. Je ne sais pas si vous, à titre individuel, vous l'avez observé qu'un homme, souvent dans une amitié de femme, va réussir à plus facilement se
Communiquer?
confier.
Mais oui, mais ben, mon copain en est la preuve, là. En amour, mon amoureux, avec ses explorations, avait beaucoup de difficultés à communiquer, mais on a été 7 ans amis avant d'être en couple ensemble. Et c'était mon confident, on était confidents un et l'autre, on se confiait des choses, on n'avait aucun problème à communiquer tout ce qu'on vivait, des interrogations ou des trucs. Bon, bref, parfois, mettons, il ne savait pas trop quoi répondre à sa blonde, il me demandait conseil et tout. Mais aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on a cette base-là, mais c'est drôle que dans ses relations amoureuses, il avait plus de difficultés à communiquer, alors qu'avec moi, étant amie, il n'y avait aucun problème. Et c'est souvent, je deviens souvent la confidente de mes amis de gars. Des trucs qu'ils n'osent pas partager à leur conjointe ou à la fille qui les intéresse, ils vont oser me le partager. Je ne sais pas, toi, Max, si avec tes amis, c'était un peu ça aussi, tu avais tendance à davantage te confier qu'à ta partenaire de vie, mettons?
Ben, j'ai été chanceux au cours de ma vie. J'ai eu des bons chums avec qui c'était possible de parler de ces affaires-là, mais généralement, lorsque j'avais besoin de conseils envers la chose féminine et que j'avais besoin justement de me confier sur ce qui se passait dans mon couple ou dans ma vie en général, j'ai toujours plus apprécié la présence des femmes dans ce genre de discussion-là parce qu'il y a plus de douceur, on dirait qu'il y a plus d'accueil, il y a plus d'ouverture. Puis ça, c'est la vision que j'en ai, mais ça a toujours été un peu comme ça que je naviguais dans ces moments de petites confessions, de vulnérabilité-là, si on veut dire. Ça dépend vraiment. Puis tu sais, faut pas entrer dans des généralités trop. Je pense qu'il y a des hommes qui sont capables de se confier à d'autres hommes parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils savent parler de leurs émotions, mais le constat est le suivant. Les hommes en haut de 40-50 ans aujourd'hui, c'est pas quelque chose nécessairement qui est facile pour eux de par leur éducation de quand ils étaient jeunes. Alors, je
Exactement.
pense que pour ces gens-là, ça doit être plus facile d'aller vers une femme, effectivement.
C'est comme si on avait inculqué à ces hommes-là, un homme, ça pleure pas, un homme, ça... Ben, tu te rappelles quand on a reçu l'homme qui est venu nous parler de sa relation à distance, à quel point c'était difficile pour lui de communiquer, de parler. Il dit, moi, on m'a pas appris ça. On m'a pas appris à parler. Je pouvais pas pleurer. Je pouvais pas. Puis c'est un peu ça qu'on retrouve chez les hommes de 40, 50, 60 ans et plus, là. Donc, j'imagine que de se confier comme ça à leur chum de gars, c'était pas non plus évident. Puis, entre chums, j'ai l'impression que c'est plus dans le plaisir, c'est plus des amitiés d'agréabilité, puis
Ouais,
de...
mais c'est surtout qu'entre chums, tu sais, quand tu te livres, tu te confesses à un de tes chums, t'as l'impression que tu te sens faible, que t'es comme un peu, excusez-moi le terme, une
Ah oui?
tapette. C'est comme ça qu'on. Ben, ça a toujours été ça, les confessions entre hommes. Alors que quand t'es avec une femme et tu te confesses et tu parles de tes émotions, ben, elle voit ça d'un bon oeil. Elle trouve peut-être même, puis on parle dans un contexte amical, mais elle trouve peut-être même ça attirant. C'est attirant pour une femme, un homme qui sait parler de ses émotions. Puis en amitié, ben, ça fait juste preuve de vulnérabilité, d'honnêteté, de transparence. Puis ça, je pense que dans un cadre amical, ben, c'est ce à quoi on aspire tous, là.
Ouais, et il y a deux choses dans lesquelles vous venez de dire qui peuvent nous amener dans deux grandes discussions, mais je vais essayer de pas m'y perdre. Moi, il y a un truc qui m'interpelle et je me pose la question sincèrement, à quel point justement cette évolution ou qui devient plus populaire sur l'amitié homme-femme, à quel point ça n'a pas aussi aidé à ce que on accepte plus la vulnérabilité. J'aime pas cette scène de vulnérabilité parce que c'est juste l'intimité des hommes. J'ai envie de dire l'intimité émotionnelle d'un homme, tout comme l'intimité émotionnelle d'une femme. Parler de nos émotions, parler de nos ressentis, de l'intérieur, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Je pense que ça aide beaucoup dans la société qu'aujourd'hui ce soit plus normalisé, que les amitiés intersexes, il n'y ait aucun souci avec ça. Et du coup, je trouve que on voit aussi que, comme tu dis, entre hommes, les gens se confient plus aujourd'hui sur les générations, j'ai envie de dire, des petits jusqu'à la quarantaine, on va dire, qu'au-dessus, parfois, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on sent encore cette culture. Un peu dur entre hommes et dans cette éducation d'hommes pseudo-viril, là, j'ai envie de dire, parce que c'est
Ouais,
pas.
tout à fait.
On peut revoir ce que c'est que la virilité, et ça, c'est intéressant parce que je me demande justement à quel point il y a eu une influence là-dessus dans la société et qui a été, je trouve, positive, parce que quand on parle, en plus, que ce soit des amitiés ou des relations de couple ou amoureuses, que une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui arrive à se livrer sur ses ressentis et ses émotions, c'est hyper important et c'est une des meilleures bases pour qu'on puisse développer une communication bienveillante et non violente, qui est essentielle pour qu'une relation se passe bien à long terme. Donc, c'est ultra intéressant de voir que la société aujourd'hui tend vers ça, même si on manque encore cruellement d'outils, qu'il y a beaucoup de maladresse. Mais c'est
Oui.
intéressant. C'est
Vraiment.
parce que.
Et pour ce qui est du couple, je pense que d'avoir une base d'amitié dans un couple, ça peut aider à ce que le couple perdure, n'est-ce pas? Quand on sort un peu de l'intimité, qu'on est capable vraiment d'être amis, d'avoir l'amitié, l'amour, la sexualité, c'est vraiment, je pense que c'est la recette
Ben,
parfaite
et c'est pour
pour.
ça que parfois ça peut être hasardeux dans une relation amicale homme-femme, parce que justement, la base de l'amour, c'est l'amitié. Fait que c'est sûr que souvent, il y en a un des deux qui confond des choses et qui interprète des signes, qui interprète des paroles, qui interprète des gestes. Puis ça fait en sorte que là, ben, on se retrouve avec un flou collectif qui n'est pas gérable.
C'est exactement là que je m'en allais juste après, que en fait, le gros problème dans l'amitié homme-femme qui va être dit aujourd'hui à travers les gens qui disent encore que l'amitié homme-femme c'est quelque chose de compliqué ou difficile, c'est la place à l'interprétation dans les relations. Et du moment où on interprète quelque chose, que ce soit dans l'amitié, que ce soit au travail au passage, que ce soit dans notre vie amoureuse, souvent ça se passe pas forcément comme prévu derrière. Parce qu'en fait, on se fait des scénarios à l'intérieur de nous. Et c'est ça le problème. Et souvent, et c'est aussi ce qui ressort et ce qui est intéressant parce qu'on fait le pont avec les études en psychologie qui sont ressorties, c'est que les suppositions des chercheurs, mais qui sont en fait très logiques, et je pense qu'il suffit de s'y pencher un peu pour penser la même chose, que, alors apparemment, ce serait plus les hommes, dans les études qu'ils font, qui interpréteraient plus mal les signaux amicaux que les femmes, bien que je pense qu'une femme peut rapidement, facilement se laisser aller aussi dans son interprétation si elle voit un homme qui est un peu. Sensible à elle ou quoi. Et cette interprétation fait que les choses se mêlent parce que la personne à l'intérieur d'elle commence à croire qu'il pourrait y avoir quelque chose et se base peut-être pendant plusieurs semaines, voire suivant comment les gens arrivent à parler de ces choses-là, plusieurs mois, voire ça peut durer même plusieurs années sans en parler à l'autre. Et ça fait que cristalliser ce ressenti à l'intérieur, voire le faire se développer. Et c'est là qu'en fait les problèmes dans ce genre d'amitié commencent alors que finalement, la base de la communication reste importante et que je pense qu'il
Oui.
faut qu'on soit tous logiques, qu'on sait que dans n'importe quel type d'amitié, hein, même je pense qu'il y a des personnes dans des amitiés, c'est même pas je pense, hein, j'en ai connu, dans des amitiés du même sexe, quand il y a une belle proximité avec une personne, il peut y avoir même des questionnements sur l'amour qu'on peut porter à l'autre, etc. Donc naturellement, ça
Mais
peut
c'est une forme
totalement se
d'amour aussi,
faire.
l'amitié, en quelque sorte.
Ben, clairement. Et c'est quand on porte de l'importance à une personne et à partir de qu'on lui veut du bien, c'est le principe de l'amour. Donc il y en a, c'est naturel. Et si on se dit, ok, mais est-ce qu'il peut y avoir plus? Bah, je pense que c'est important qu'à un moment donné, aussi, on désacralise cette peur qu'on a dans la société, parce que c'est vraiment culturel, d'oser parler de ça. Et de se dire, si à un moment donné, l'un ou l'autre, on a des sentiments, ou il y a des choses qui sortent, comment on le gère? Qu'est-ce qu'on fait? Okay.
Oui.
Et est-ce qu'on se le dit, est-ce qu'on se le dit pas? Est-ce qu'on se dit d'avance que c'est pas quelque chose qu'on veut du tout dans notre relation? Et puis je pense que c'est important, c'est même très important de communiquer en fait, d'en parler ouvertement.
Ouais.
Il y a quelque chose en fait qui est quand même délicat, ben délicat, des trucs que des amis ont vécu, que j'ai vécu aussi.
Ouais.
C'est une amitié homme-femme avec le sexe opposé. Qui était purement amicale et qui a duré quand même plusieurs mois, voire des années. Et à un certain moment, lorsque la personne t'invite à prendre un verre et que là, tu réalises que la personne veut plus et que tu refuses gentiment, mais là, le comportement de l'autre personne change complètement. Et là, l'autre personne est devenue super distante, méchante, vraiment déçue de ne pas avoir plus, alors que ton comportement n'a pas changé du tout. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi, là. On l'a vécu, nous, à l'inverse, avec un homme, par exemple, là, tu sais, qui était notre ami, qui était mon ami. Une autre amie avait un autre ami, finalement, et elle a vécu la même chose que moi. Donc, vraiment, un ami envers qui il n'y avait jamais eu de séduction ou quoi que ce soit. Et c'est simplement qu'on est sympathique. Bref, on entretenait une relation vraiment très amicale, connaissance amicale. Et la journée où la personne a décidé d'envoyer une invitation et qu'elle a été refusée, finalement, ben là, la personne se retourne complètement. Puis, tu sais, ça, en fait, ça fait partie de la gestion des attentes aussi. Lorsque, à tes yeux, la relation évolue, change et que tu invites l'autre personne, ben, il faut que tu sois prêt à accueillir la réponse de l'autre, peu importe la réponse.
Ben, c'est clair, et je pense que c'est là que c'est intéressant de se dire, est-ce que la personne justement qui avait émotionnellement ben, une attirance pour l'autre, et sentimentalement, est-ce que dans un certain niveau, elle n'aurait pas justement passé un certain temps à interpréter les choses et à se dire que puisqu'on ressent ça, c'est comme une évidence alors que ça ne l'est pas du tout forcément, et que c'est censé être correct que chaque personne ne veuille pas la même chose.
Ouais. Mais tantôt, tu disais, c'est important de le communiquer si jamais on ressent une attirance vers son ami. Mais, tu
Mais
sais, je suis vraiment de l'école qu'il faut tout dire, puis je suis d'accord avec toi là-dessus, mais j'ai l'impression que jusqu'à une certaine mesure, ça peut vraiment briser l'amitié parce que à la seconde où on met ça sur la table, il n'y a plus de retour en arrière, puis souvent, ben, les choses vont être très différentes. Il n'y a plus rien qu'on peut changer une fois que c'est dit, là.
faut pas hésiter, comme alors je reviens sur ce que j'ai dit dans le sens à faut pas hésiter à parler de ce sujet-là, que ce soit pas un tabou, mais pas forcément parler de son attirance pour l'autre, mais on est amis, et si un jour il y en a un qui a des sentiments pour l'autre ou quoi, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas hésiter à en parler en amont si on sent que c'est quelque chose qui est faisable dans notre relation. Et si le jour où on se retrouve dans la situation où on n'a jamais parlé de ça en amont et que il y en a un qui ressent des sentiments pour l'autre, il ne sait pas s'il doit lui dire ou pas, ou le faire comprendre ou non, il n'a pas envie de rentrer dans l'interprétation, par exemple, à travers tout ce qu'il vient d'entendre là, et se dire bon, ben, qu'est-ce que je fais? J'en parle ou j'en parle pas? C'est deux choses l'une. C'est à soi de se poser la question et de se dire, bon, on l'a jamais évoqué entre nous dans notre relation. Donc, est-ce que je prends le risque de lancer le sujet aujourd'hui sans forcément révéler mes sentiments? Si jamais un jour, on n'en a jamais parlé, il y en a un nous qui a des sentiments, ça peut aussi réveiller la question à se dire, parce que c'est quoi, c'est que tu en as? Et à nous de voir si on se sent de prendre le risque que la relation continue comme elle était ou change parce que la personne en face aurait du mal à le recevoir. C'est à nous de voir si on est prêt à ça ou si on n'est pas prêt à ça. Et si on n'est pas du tout prêt à ça, est-ce qu'on est prêt à, nous, arrêter d'interpréter et simplement vivre notre vie tout comme on est deux amis et voilà, vu que j'ose pas parler de ça, vu que j'ose pas prendre les devants à savoir, voilà, si un jour on a des signaux amoureux l'un ou l'autre, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Et si je me sens pas de parler de tout ça, ben j'assume et puis je vis ma vie à côté, mais je vais pas me pousser une petite histoire à l'intérieur de moi qui du coup finirait par me mêler et nourrir ce truc qui, je pense, empêche un peu d'avancer émotionnellement lui de son propre bord, par exemple, ou d'elle de son propre bord, et à la fois qui laisse quelque chose qui, pour moi, est un peu une bombe à retardement dans la relation, quoi.
Ouais, mais en même temps, là, c'était le constat défaitiste. Puis bon, c'est mon petit côté cynique, là, mais si on va de l'autre bord, ça se peut aussi que. Puis même, je vais te prendre comme exemple, là, désolé, là, mais ça se peut aussi
Mais
que
c'est
ça
correct ce
arrive
matin.
à un bon stade pour les deux, puis que les deux font comme, ben oui, on a été amis longtemps, mais là, ça marche. Tu sais, je veux dire, il y a pas de, c'est très très relatif, hein. Il y a pas de réponse vraiment
Vraiment.
parfaite à toutes ces
Non, ouais.
questions-là.
Mais
C'est
tu
pour
vois,
ça
dans
que je
mon
trouve que
cas.
ouais,
Oui.
c'est intéressant. Vas-y, Mel.
Non, non, vas-y.
Ce serait intéressant que tu nous en parles quand même. Pour moi, c'est pour ça que c'est bien de libérer la parole sur ce sujet-là, de dire, si un jour on a des sentiments, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas censé être un interdit d'en parler. Et puis au contraire, ça peut être, ben, vaut mieux qu'on s'en parle, parce que si, sait-on jamais, mais si jamais ben, on n'est pas en, t'sais, on n'est pas raccord, toi t'en as, moi j'en ai pas, ou inversement des sentiments. J'aimerais que notre amitié, elle arrive à rester bonne. Et dans ce cas-là, ça peut être OK, ben, je l'entendrai. Il y aura peut-être un petit moment un peu wack entre nous, mais il faudra qu'on le dépasse, quoi. Okay? C'est hyper important qu'on accepte que l'autre ne soit pas dans le même feeling que nous, quoi.
Mais oui, exact, c'est ça. Il faut s'attendre. Mon amoureux, moi, c'est lui qui a fait les premiers pas. Puis, c'était la première fois depuis 7 ans, disons qu'on était célibataires en même temps. Il a toujours été soit lui en couple, moi célibataire, lui en couple. Puis, on respectait ça. On était vraiment très, très, très respectueux des relations de l'autre. Puis, il n'y avait pas non plus de séduction et de crosse à ce moment-là. Et là, lui, ce soir-là, où il m'a fait la déclaration, ben il s'est dit dans sa tête, c'est soit que ça passe ou ça casse. C'est soit que ça passe, puis que c'est réciproque, ou peut-être que je vais briser à jamais l'amitié qu'on a ensemble. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec les autres personnes qui ont fait à peu près la même chose et envers qui, moi, c'était pas réciproque, tu sais.
Ouais, c'est
Fait
lance une
que ça,
pièce
c'est
dans
un
les airs,
risque quand même.
puis on regarde de quel bord ça va tomber, là.
Bien, c'est ça. Mais
Mais
lui, il était
c'est
prêt à
ça.
ça. Il avait envie de
Mais
le
ouais, c'est
faire,
ça.
puis il a osé le faire.
Mais ça veut
C'est
dire,
ça qui est
Mel,
important.
ça veut dire quand même que là, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, d'une nuit à l'autre, mais ça veut dire que puis oui, quand même, avait des sentiments pendant longtemps, même s'il contrôlait, ça nous ramène un peu au début de la conversation, dans le sens où il y en a toujours un des deux qui peut-être veut plus dans une relation homme-femme.
En fait, on a toujours eu une attirance, une certaine forme d'attirance, mais c'est sûr que depuis le fameux soir où il est venu à la radio, où tu as assisté peut-être à la naissance.
Ah, j'ai tout assisté à ça. J'étais trop dans le studio, moi, là, ce soir-là.
Mais non, c'était vraiment super. Puis là, OK, on parle de nos trucs et tout, mais c'est parce qu'encore ce matin, il y a quelqu'un, j'étais en podcast avec José Arsenault dans son podcast sur le Patreon, puis les gens disaient à quel point ils aimaient ça, qu'on partage nos trucs, moi et Max, et à quel point, bon, parfois, ça les a aidés à avancer, de cheminer sur leur côté et tout. Donc, on partage plein de trucs comme ça de nos vies personnelles. Donc, parce que, on a comme commentaire que vous aimez ça, là, mais si c'est trop, vous nous dites.
Je pense que les gens peuvent s'y rattacher, là, tout simplement.
Mais oui.
Oui, c'est ça qu'on nous passait comme message. Donc, c'est pour ça qu'on vous partage ça. Mais tu vois, dans ce cas-ci, mon amoureux, il y a quand même eu des signes. Tu sais, je veux dire, on a quand même commencé à faire plus d'activités ensemble. On en faisait déjà, mais là, il y avait de l'activité, mais. C'est vraiment lors d'un soir en particulier où il y a eu des petits rapprochements plus physiques, je dirais. Là, on jouait au blackjack ensemble, on était vraiment collés, tout ça. Donc, quand il est venu me reconduire la voiture, c'est là que ça...
Ça se sent, là, tout simplement, quand ça va peut-être développer. Ça. Mais t'as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Là. Puis, je vais te cuisiner comme un bon vieux cuisinier. Parce que t'as parlé d'attirance. Tu le trouvais attirant au début, puis oui, également.
Toujours.
Donc, est-ce que c'est impossible de pas avoir d'attirance dans une amitié homme-femme? Toi, vous l'aviez, puis finalement, ça a bien fini. Mais Caroline, selon toi, l'attirance, est-ce qu'il faut composer avec? Ou c'est un mythe de penser que faut absolument pas en avoir pour être ami avec une femme?
Si on est un homme. Stupide, je trouve. Enfin, c'est dans le sens où c'est normal d'avoir de l'attirance pour quelqu'un, qu'importe qui il est. C'est comme, et je pense que ce serait hypocrite aussi, même dans une relation de couple, par exemple, de ne pas trouver une autre femme ou un autre homme attirant alors qu'on est en couple et qu'on désire la personne avec qui on est. L'attirance, c'est quelque chose qui est humain et même qui est très vivant, j'ai envie de dire, mais c'est important qu'on le dissocie, qu'on le dissocie des relations.
C'est ça le beau de tof, là.
Mmh. Ben, je pense que c'est parce qu'on a tellement. Ça revient à notre culture, là, que.
Oui. Si t'es attiré par quelqu'un, il faut que tu passes le stade amical.
Oui, genre, on peut avoir de l'attirance pour une personne sans avoir envie que ça soit plus qu'un ami, ni même qu'on peut avoir de l'attirance sans avoir le besoin de coucher avec l'autre ou d'avoir de
l'attirance. Mais oui, on a des collègues qu'on trouve beaux, puis on veut pas coucher avec nécessairement. Voilà. Ben, je sais pas, toi, Max?
Oh oui, moi, Jordan, là.
Mais non, mais des amis, des connaissances, on croise tellement de gens, je peux pas croire qu'il faudrait qu'on couche avec toutes les personnes.
Si je suis attirée, c'est...
On peut, c'est même pas une question de maîtrise, c'est juste, on n'a pas besoin d'être... J'allais être vulgaire, mais on n'a pas besoin... Je sais pas, là, on peut être un peu civilisé.
Non, mais c'est ça, là. Si on se mettrait à coucher avec tout le monde pour qui on a une attirance, moi, je pourrais pas travailler, là. J'aurais trop de projets.
Bon, ben voilà, il est honnête avec nous. Donc, du coup, pour moi, il faut vraiment qu'on désacralise cette affaire. Et tu vois, c'est intéressant ce que nous partage Mel, parce que il y avait une attirance entre eux, puis ce que je trouve qu'il a bien fait, puis oui, puis ce serait intéressant même qu'il nous en parle, mais c'est que même s'il s'était posé la question peut-être certaines fois, est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose avec Mel ou non, je veux dire, à un moment donné où c'était peut-être sain de le faire pour éviter d'être trop dans de l'interprétation puis pas se laisser donner une chance, il a décidé de prendre le risque. Mais j'ai envie de dire, il faut oser parfois accepter que parfois la vie c'est aussi quelques petits risques et que on ne peut pas préserver une relation à tout prix. Si à un moment donné, on a envie vraiment de pouvoir dire à l'autre qu'il ou elle nous plaît sans se faire des films, faut oser le dire et lui dire que aussi, si tu veux qu'on reste amis, moi, je saurais gérer mes choses après puis passer à autre chose. Ce n'est pas parce que je ressens un potentiel avec toi que ça veut dire que je vais rester éperdument amoureux toute ma vie et accroché à toi.
Exact. Il y a des gens qui seraient capables de bien vivre avec ça puis d'autres qui refusent totalement le rejet et qui préfèrent s'éloigner de la relation par la suite.
Mais clairement. Et si ça peut aider certains aussi, c'est moi en tant que femme et quand j'étais jeune femme ou quoi, j'avais plein d'amis garçons, j'avais plus d'amis garçons que de filles, et j'avais des amis qui étaient charmants, enfin vraiment, pour lesquels je pense ça aurait pas été des amis, tu as du charme pour eux. Et tu sais, c'est normal parfois de se poser la question et de se dire est-ce qu'il m'attirait comme plus que de l'amitié ou pas. Je trouve que c'est hyper sain de se poser la question de temps en temps pour se mettre à jour soi-même. Et pour moi, c'était clair qu'à chaque fois, à l'intérieur de moi, c'était non, je ne le vois pas plus qu'un ami. Et ça reste un ami. Et du coup, verbalement, avec cet ami-là, entre autres, je lui disais souvent, tu sais, pour moi, j'insiste, t'es comme un frère. Et puis, c'est asexuel entre nous qu'on soit très clair, OK? Comme ça, ça ne me gênait pas qu'on se prenne dans les bras, ça ne me gênait pas que on passe des week-ends ensemble, qu'on allait faire des machins, parce que c'était établi entre nous.
Mais si on va plus loin, là, par exemple, avec quelqu'un que tu considérais comme un frère, si 15 ans plus tard, finalement, il arrive, puis il fait comme Pee-wee, puis il t'embrasse, tu fais quoi?
Ah ben là, c'est pareil, il y a une petite notion de consentement. Là.
Ouais, non, mais on s'en...
Moi, il m'a demandé la permission. C'était tellement beau.
Ouais, enfin, il y a des moments où, tu sais, on n'était pas en date, là. On est amis depuis 15 ans. Ouais. On ne me prend pas comme ça par surprise. Ça m'arrivait avec un ami, il m'a pas embrassé, mais je l'ai extrêmement mal pris. J'étais toute jeune, puis c'était un ami de... Je viens de France, là, ça s'entend, du lycée, donc comme au secondaire. Puis quelques années après... on passe un week-end ensemble, mais on était vraiment comme des amis, mais des frères et sœurs. Là, vraiment, pour moi, c'était vraiment très clair. Et j'étais toute jeune à l'époque, pareil. Hein, j'avais pas les codes, et j'étais pas coach, j'avais pas tout ça. Et un week-end, je me trouvais colo, il m'énervait. Enfin, vraiment, parce que c'était comme un frère, là, le frère trop colo, chiant, là, pour dire ce qu'il est. Et à un moment donné, on était chez moi, et il me fait une espèce de vieille déclaration sur. On était sur le canapé, je me pose qu'on vient de manger, boire un verre, on sait rien. Je me souviens l'avoir regardé et dire, mais attends, mais non, là, genre, c'est pas possible. Puis, je veux bien être compatissante un peu au départ et dire, OK, mais là, tu te trompes, enfin, moi, il n'y a pas. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, c'est une notion de respect mutuel et c'est très. Ouais. Là, il faut sortir de. C'est quand une personne te dit non, il faut arrêter, là, il faut switcher, OK ?
Oui.
Et c'est ce qui m'a, moi, à l'époque, m'a mis hors de moi et ce qui a brisé quelque chose pendant pas mal de temps avec lui, c'est que il insistait. Et au point, j'ai dû le mettre dehors. Enfin, pour vous dire, j'ai dû le mettre dehors. Ça m'a perturbée pendant des années d'avoir mis un de mes meilleurs amis à la porte. Et il n'avait pas d'endroit où dormir la nuit parce que je ne pouvais pas le laisser dormir chez moi. J'étais dans un studio. Si le mec, quand je disais non, il continuait à me parler comme si je disais oui, quoi.
Ouais, ben ouais, c'est ça marche pas.
Ça, on en connaît aussi, là.
Comment?
C'est non, mais les gens agissent comme si ça allait être oui un jour.
Mais c'est à cause de leur interprétation, parce qu'ils ont tellement laissé ça dans leur tête marinée, ils se sont fait des films, qu'en fait, ils se raccrochent à ce film-là. Et ouais. C'est pour ça que je disais tantôt, le pire des poisons là-dedans, c'est l'interprétation, il faut arrêter d'interpréter. C'est OK que tu as un doute, c'est OK que tu ressentes ça, mais c'est aussi OK que l'autre, ce sera peut-être pareil ou ce sera peut-être pas pareil. C'est aussi OK que l'autre, il va peut-être se dire, ou elle va peut-être se dire, « Oh ben si on essaye, oh ben finalement, c'est pas OK. » Mais j'ai quand même envie qu'on garde notre amitié. C'est possible, ça va être à chacun de faire ce petit travail sur soi, de mise à jour. Et moi, cette amie, j'aurais eu aucun souci, hein, aucun mal à l'époque de dire, écoute, ça va peut-être être un peu wack entre nous pendant quelques semaines, je vais faire comme si de rien n'était. Je te fais confiance pour gérer ton truc et puis on revient. Moi, c'était un de mes frères, quoi. Et la preuve en est, c'est que des années après, on s'est donné des nouvelles et on s'est tous les deux méga excusés de cette situation. Moi, je m'en suis tellement voulu d'avoir mis à la porte, mais c'est comme mettre son frère à la porte, ça, ouais. À la rue, c'est vraiment bizarre, parce qu'il était étranger en plus, donc il n'avait vraiment pas d'endroit où dormir. Fait que pour moi, c'était assez traumatisant d'avoir fait ça. Et lui, il s'est excusé de ne pas du tout avoir respecté ce que je disais, alors qu'on se faisait foncièrement confiance, quoi. Donc,
Je pense qu'on pourrait presque faire une deuxième émission là-dessus, sur les différents types d'amitié, le rejet, comment gérer le rejet, mais également... L'amitié avec les ex, est-ce que c'est sain ou pas?
Ça, c'est une
circonstance. Est-ce que c'est sain ou pas? Je pense qu'on pourrait faire un bloc complet là-dessus.
Ah ouais, ça va être intéressant.
Vraiment. Donc, Caroline, Mathieu, Odyssée du bonheur, sur quelle plateforme est-ce qu'on peut te retrouver et on peut également faire un beau petit test pour découvrir notre langage amoureux?
Oui, alors ça, c'est sur mon site qui s'appelle commelebonheur.com pour faire le test, savoir sur quel langage amoureux on a tendance à fonctionner. Commelebonheur.com et sinon depuis mon site vous allez retrouver mon Instagram qui est odyssée.du.bonheur. J'ai mis des points, c'est plus facile.
Génial. Est-ce que tu as des ateliers qui s'en viennent bientôt ou des cohortes qui débutent?
Là c'est assez calme pour le moment, mais ça pourrait s'en venir, fait qu'hésitez pas à suivre et puis vous aurez toutes les infos.
Yes. Merci beaucoup Caroline Mathieu, coach relationnel. C'était un plaisir de discuter avec toi de l'amitié homme-femme. Et vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La Sex.
La Sexploratrice.
Exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
De retour avec Mel et Max dans La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Mais quel sujet intéressant qu'est l'amitié homme-femme. On va assurément poursuivre ce beau segment avec Caroline Mathieu, coach relationnel, sur l'amitié homme-femme avec les ex.
Hey, ça va être épineux, ça.
Ça va être vraiment intéressant.
C'est quoi ton école? Juste là, regarde, je sais qu'on n'est pas censé en parler, mais on est entre nous autres à soir. Là. Ton école de pensée là-dessus, on reste-tu amis avec les ex?
Ben moi, je veux dire, si l'ex n'est pas toxique et que tout est sain, là, que tout est clair des deux côtés, je vois pas pourquoi je resterais pas amie. Je n'irais pas nécessairement prendre un café avec mon ex, là. Mais je veux dire, un petit coucou, ça va, ou salut dans la rue, là, tu sais, je veux dire, je suis comme...
Ben là, mais t'as pas, il y a une différence entre rester ami avec son ex et rester en bon terme avec son ex.
Exactement, rester en bon terme avec son ex. Tu vois, avec le père de mon fils, je suis restée très amie avec lui après, lorsque je me suis séparée de mon autre chum d'après, finalement. Bref, c'était devenu mon ami, on faisait plein d'activités ensemble, mais c'était beaucoup en lien avec notre garçon.
Ben,
on faisait des soupers à la maison, donc il y avait un lien familial quand même. Mais tu sais, un ex-ex, j'en ai pas gardé, moi, dans mon entourage, toi?
Ah, écoute, dans mon cas, c'est une question que je me suis longtemps posée, forcé d'admettre que ça m'a toujours apporté plus de problèmes que son contraire. Ça m'a jamais vraiment aidé là, dans les relations de couple que j'ai eues, rester ami avec mes ex. Bon, probablement que c'était de ma faute aussi, là, à une certaine époque. J'étais pas le gars le plus trustable, on va dire ça de même.
Mais c'est que les intentions étaient pas claires.
Les intentions étaient pas claires des deux côtés, effectivement. Mm-hmm. Mais en vieillissant et dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est clair que je ne vois aucun intérêt à rester ami avec mes ex, parce que je me dis, ben écoute, ce qui est arrivé, et j'aime mieux laisser ça à l'endroit où ça s'est passé, apprendre de ça, retirer ce que j'ai besoin de retirer de cette relation-là, puis de continuer à avancer. Mais ça ne veut pas dire que c'est un échec parce que la relation se finit, non, ça veut dire que c'est un nouveau début parce que la relation se finit. Puis je pense que ça ne me donne rien de rester ami à une ex, pour moi c'est juste ressasser le passé, mais tout comme toi... Je souhaite être en bon terme avec mes ex. Par contre, je veux pas finir ça en queue de poisson parce que je pense qu'il
n'y
a rien de pire que ça. T'sais, j'avais cette discussion-là hier avec Gary qui me disait, tu sais, à la fin de notre vie, là, ce qui va compter le plus, c'est les amours qu'on a eus, les femmes avec, que tu as aimées, puis comment ça s'est terminé avec ces femmes-là.
Effectivement.
Fait que je pense que c'est important de rester en bon terme avec à peu près tout le monde. Il y a des fois, c'est juste pas possible, mais avec ses ex, c'est primordial.
Oui, effectivement. Moi, tu vois, j'aurais trois types d'amitié à te parler, selon Aristote.
Selon Aristote?
Selon Aristote.
Okay, vas-y.
Moi, tu sais que je suis passionnée de métaphysique et de trucs comme ça. Et tu vois, moi, j'aurais trois types d'amitié à te partager, selon Aristote, qui distingue trois types d'amitié, en fait. Tu le sais bien, moi, j'aime Aristote, j'aime la métaphysique, j'aime tout ça. Donc, c'est des trucs sur lesquels je suis tombée. Et selon Aristote, il y aurait l'amitié utile qui serait fondée sur l'intérêt, l'amitié agréable qui repose sur le plaisir et l'amitié qui est un peu plus rare et plus exigeante qui aurait pour fondement la vertu et comme but le bien. Donc, ce serait trois types d'amitié qu'on retrouverait là, parmi les gens autour. Puis c'est vrai que dans le fond, nos amis, quand tu regardes ça, tu sais, il y a des amis avec qui on fait des activités davantage culturelles, d'autres des sorties, d'autres amis du sport. Donc, c'est quand même intéressant. Puis c'est là où je me dis... Tu sais, dans la vie, on choisit de passer notre vie avec un seul et unique humain pour la vie, idéalement, en amour. Mais en réalité, on sait qu'il n'y a pas un seul et unique humain dans la vie qui peut répondre à tous nos besoins. Là.
Non, puis c'est là que les amis interviennent.
Voilà, nos amis peuvent nous aider à nous épanouir de ce côté-là. Puis il y a des gens qui, pour eux, vont se tourner vers le polyamour, justement, pour pouvoir combler l'ensemble de leurs besoins et au niveau affectif et au niveau activité, au niveau loisir et tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant là, de te partager ça.
Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, que le terme « meilleur ami » ou « meilleur ami E » qu'on utilisait au secondaire quand on était bien jeune, je vois encore des adultes utiliser ce terme-là aujourd'hui. Ça veut-tu dire que ces meilleurs amis-là, ça regroupe les trois aspects de l'amitié dont parle Aristote, tu penses?
Oh, c'est intéressant, mais peut-être qu'on pourra embarquer ça dans le sujet avec Caroline la prochaine fois.
Ah, on va
c'est
demander.
Très intéressant. Oui, peut-être. Qui sait? Bref, on va poursuivre cet intéressant sujet-là, assurément, très, très prochainement. Aujourd'hui également, c'était la Journée mondiale de la radio, Max.
Ben
est-ce que
oui.
Tu as souligné ça sur les réseaux sociaux? Hein? On a vu le hashtag Journée mondiale de la radio.
Tu me connais. Penses-tu vraiment que j'ai souligné ça sur les réseaux sociaux, Mel?
Ah. Moi, je l'ai souligné.
Je sais.
J'ai mis notre belle photo de nous deux hier là, avec nos masques.
Ah oui, dans l'auto. Ouais. Une chance qu'on avait nos masques hier parce que tu serais probablement très mal en point aujourd'hui.
Oui, j'espère. Moi, je suis déjà faible, hein, fait que je veux pas. Je veux pas que tu me partages.
Écoute,
ça.
Mel, tu me parles d'Aristote à soir, que je te connais plus, là.
Mais non, mais moi, je suis très intéressée par la philosophie et la métaphysique et tout ça, là.
Oui, mais la métaphysique, là, pour. Je m'en allais dire le métamucide. Oui. Mais la métaphysique, là, pour ceux qui connaissent pas ça, comment tu décrirais ça?
Bien, ça rejoint un peu la loi d'attraction et le fait que tout est fait de matière et énergie, tu sais. Toute la matière est faite d'énergie, en fait. Tout ce que tu peux vibrer va se concrétiser. Et, bon, bref, c'est tout ce qui nous entoure, là, ben, ce serait le résultat de ta pensée.
OK. OK, je comprends.
C'est un peu ça, la métaphysique, mais c'est plus fort, c'est plus puissant que ça. On aurait Laurence Lévesque qui pourrait très bien venir nous en parler. Je l'ai déjà invitée dans le MID avec Robbie Moreau. Elle est métaphysicienne. Je m'étais même informée pour faire la formation de métaphysique parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais ça demande énormément de temps. Mais vraiment, là, par la pensée, on peut arriver à créer vraiment notre vie de rêve.
OK.
Selon les métaphysiciens, selon Laurence, selon... plein de monde.
La visualisation. Ouais.
La visualisation. Mais c'est pas juste de visualiser. Il faut que tu le ressentes. Il faut que tu le vibres.
Okay.
C'est vraiment... Ça rejoint exactement ce que Laurence C. Germain nous partageait, à ne pas confondre avec Laurence Lévesque, qui est métaphysicienne. Laurence C. Germain, c'est notre chroniqueuse littéraire qui nous a parlé justement du livre Le Secret. Donc, vraiment, la loi d'attraction, la métaphysique, tout ça, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis, tu sais... Je regarde ma vie aujourd'hui, puis c'est vraiment quelque... tout ce que j'ai désiré voir naître a fini par arriver. Pas nécessairement au moment où je le souhaite, mais au moment où je suis prête.
Ça a-tu été un travail de longue haleine au niveau de... On parle de la loi de l'attraction, on parle de visualisation. Est-ce que tu t'es attardé longtemps à vouloir que ça arrive ou tu as un jour espéré ça puis c'est arrivé tout bonnement quelques années plus tard, voire quelques mois plus tard, tout dépendamment?
Bien, je pense que c'était... Bien, depuis que je suis toute petite, là, je fais beaucoup de visualisation sans m'en rendre compte, en fait. Là. C'est surtout au coucher. Lorsque je me couche le soir, je me réveille le matin, je suis beaucoup dans des pensées, je me vois beaucoup faire des choses que je souhaiterais faire, mais je le pense comme si je le faisais déjà.
Ouais, ouais, moi aussi, je suis complètement comme ça.
Je suis déjà en train de le faire. Tu sais, comme la radio, c'était mon rêve là, de faire ça. La vie m'a emmenée ailleurs durant plusieurs années, mais vraiment, depuis que je suis chroniqueuse et depuis que je suis animatrice, c'est un rêve que je réalise, de créer des couples et tout ça. Plus jeune, c'est quelque chose que... Tu sais, j'ai créé mon propre métier, là. C'est un peu fou quand même quand tu y penses.
Ouais, c'est incroyable. Mais là, ouais. Tantôt, je t'ai amené à gauche là, avec la métaphysique pendant que tu me parlais de la journée mondiale de la radio.
Là, mais tu voulais... comment ça, donc, on est revenu là?
Ben, ouais, écoute, là, ça, c'est nous autres. Hein. On part à gauche, on s'en va à droite, on reste dans le milieu, puis finalement, on recule.
Une émission en saveur TDA.
Oui, ouais, c'est ça, exactement. Mais pour toi, parce que c'est curieux, oui, j'ai vu tous nos collègues et les nombreux artisans du domaine de la radio faire une annonce, publier une petite pensée en lien avec la journée mondiale de la radio aujourd'hui, mais ça représente quoi pour toi, la journée mondiale de la radio? Ça veut-tu dire quelque chose ou c'est juste le fait de le souligner?
Bien, en fait, moi, je le souligne, mais là, je voulais te parler de d'où est-ce que ça vient, cette journée-là. Comment ça que ça a été créé?
Je veux tout savoir!
Ben oui! Donc, c'est une fête qui est célébrée, finalement, le 13 février, la Journée mondiale de la radio, qui marque l'anniversaire de la première émission de la radio des Nations unies en 1946. Donc, les Nations unies, s'adressent aux peuples du monde entier. La Journée mondiale de la radio, ben, ça a notamment comme vocation de sensibiliser le public à l'importance de la radio, à faciliter l'accès aux informations par le biais de la radio et à faciliter la collaboration entre les radiodiffuseurs. Donc, c'est dans ce but-là qu'a été créée la Journée mondiale de la radio.
Ben, coudonc, tu parles d'une histoire, toi. Hein? On a des journées mondiales pour toutes à cette heure, hein?
On a des journées mondiales pour toutes. Là, moi, je veux lancer la journée mondiale du couple et je veux lancer la journée mondiale des célibataires.
Oui, on fait ça quelle date?
Bien, il y a une journée des célibataires qui existe au Japon, mais c'est une journée très commerciale, qui est le 11 novembre, où là, il y a des spéciaux en ligne pour les célibataires et tout ça. Mais moi, j'aimerais vraiment ça créer un gros happening là, avec plein de célibataires puis célébrer la journée internationale du célibat, cette journée-là.
OK, mais est-ce que tu...
On va choisir la date, là, puis on va faire ça.
Est-ce que tu réunirais tous ces célibataires-là dans le but de les matcher potentiellement? Donc, le fait de célébrer la Journée internationale des célibataires, ce serait plus pour matcher du monde célibataire.
Mais en fait, je vais me mettre la pression d'organiser cette journée-là. Je ne me mettrai pas la pression de matcher tout le monde qui va se pointer à cette journée-là. Par contre, tous ces gens-là qui vont oser se présenter à cette belle journée... Bien, ils sont tous célibataires, fait que t'as nécessairement des chances de croiser l'amour quelque part là-dedans.
Mais d'ici à là, d'ici à ce que cette fameuse journée soit mise sur pied, demain, là, si vous êtes célibataire, vous pouvez potentiellement vous matcher avec la peut-être flamme de votre vie.
Voilà! Demain, c'est notre soirée radio-rencontre pour la Saint-Valentin. On reçoit, là, j'ai dit, on en a 3 confirmés, peut-être 4 pour nos célibataires de demain. On a, ben, je vous en parlerai pas tout de suite, en fait, on vous garde la surprise. Donc, on a 4 candidats qui seront disponibles avec nous en studio. Vous allez pouvoir téléphoner, interagir avec eux. On va vous les présenter. On va tenter de les matcher en onde avec des gens potentiellement intéressants qui vont nous contacter ou qui sont persuadés d'avoir quelqu'un d'intéressant à présenter. On va tenter de former un couple. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais à tout le moins, on va essayer. Et toutes ces personnes présentes en onde vont recevoir un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ de chez Planetix, c'est Planetix qui est à l'origine d'un magnifique concours et c'est d'ailleurs demain qu'on va élire le ou la gagnante de ce beau concours-là. Donc, à mon signal, qui est dans quelques secondes, partagez-nous 3, l'histoire 2, la plus inusitée. 1. Maintenant, partagez-nous ouais. l'histoire la plus inusitée de cadeau de Saint-Valentin que vous avez fait ou que vous avez reçu. Partagez-nous ça via le 88-670-9098. On veut connaître le cadeau le plus inusité et vous risquez de devenir finaliste pour devenir éligible au panier cadeau d'une valeur de 250 $ de produits Planetix. C'est Planetix qui, avec ses 6 boutiques sexo-éducatives, est présent un peu partout à Québec, mais également via monplanetix.com, vous pouvez vous procurer de magnifiques produits intéressants. Donc, monplanetix.com pour ce beau concours-là. Donc, demain, Max, t'es prêt? On a hâte de rencontrer nos célibataires.
Ah, je suis tellement prêt. Ça va être une soirée incroyable. On avait parlé de ça, je sais pas si tu te souviens, là, mais à notre premier meeting, alors qu'on se connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam, là, on s'était planifié un souper avant que la saison de radio d'automne commence, donc l'été dernier. Puis on avait émis cette idée-là d'un jour faire ça, une espèce de radio-rencontre. Puis là, ça se passe demain. Alors, je suis complètement fébrile. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce que le but principal, je pense, c'est de passer un bon moment en onde, évidemment. Mais seconde, c'est de créer des vrais couples. On veut que ça marche pour vrai. On n'est pas dans l'occupation double. On ne fait pas de tirer de condo, puis pas de side-by-side, puis de patente à gaz de même, puis pas d'injection dans les lèvres. Non, non, c'est pas ça.
Les gens qui viennent sont sincères dans leur démarche. Ils ont envie de rencontrer. Et là, on va avoir des gens de 30 à 70 ans.
Oui, ça va être assez éclectique au niveau de l'âge. Puis je suis persuadé, moi, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, que le blind date, donc de parler à quelqu'un juste par la voix, ça peut attiser des choses, des fois, qui sont peut-être plus profondes que ce qui peut être attisé par juste l'image, par exemple, sur Tinder.
Absolument. En fait, moi, j'ai déjà vécu l'expérience avec mes services de rencontre blind date que j'organisais à l'époque au restaurant Le Sixième Sens, dans le noir complètement.
Oh, ça devait tellement être cool, ça!
C'était super cool sur le moment. Mais en toute honnêteté...
C'était pas cool.
Quand la lumière s'allumait, c'est comme s'il vivait un choc.
Hey, donc, mais ça, c'est vrai, parce qu'on se fait une image là, de la personne par rapport à sa voix.
On se fait une idée préconçue de l'autre personne. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, virtuellement, ne vous éternisez pas par texto. Ou passez rapidement à l'appel par la voix ou l'appel vidéo, qui est encore plus... c'est l'idéal, finalement. Parce qu'on peut rapidement se créer des idées préconçues par rapport à l'autre personne. Puis la voix de quelqu'un, ça peut nous « turn it off » ou nous allumer, là.
Ouais, mais moi, ça m'est tellement arrivé souvent, ça, de... Je rencontrais des gens avec qui j'avais juste conversé par la voix. Puis la plupart du temps, c'est « Ah! T'imaginais pas de même! T'imaginais plus grand! »
C'est ça.
Ou « Oh! Beaucoup plus laid que je pensais!
» Exact. Donc, on va quand même y aller demain à l'aveugle, parce qu'on veut que les gens rencontrent pour les bonnes raisons. Mais c'est ça. Fait, je garantis pas le résultat, mais je pense que juste d'oser, c'est une belle expérience. Ça fait partie quand même des situations les plus anxiogènes dans la vie d'un humain que de rencontrer quelqu'un, de partir comme ça à la rencontre de nouvelles personnes. Mais là, ces gens-là acceptent de le faire, puis on y va sans attente. Donc, ça pourrait que ça clique, ça se pourrait que ça devienne des amis, ça se pourrait qu'en devenant des amis, la personne présente quelqu'un d'autre. Donc, tout est possible, finalement.
Tout est possible. Demain, 10 h.
Demain, 22 h sur les ondes de choix, 98.1 Radio X. Soyez des nôtres pour Radio Rencontre. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres ce soir encore une fois. Enfin, je retrouve ma forme. Max, ça va venir.
Puis on va boire de l'eau des petites nanas, ça va être correct.
Yes! Merci beaucoup tout le monde d'avoir été si nombreux à interagir sur le live. C'est un rendez-vous demain avec la sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio Week.
La sexploratrice
avec Mel Trudel. Radio Week.